Je vais maintenant présenter notre conférencier. Selon l'expression traditionnelle, il n'est absolument pas, n'est pas besoin de le présenter, mais comme vous savez aussi, ici, nous avons une tradition, c'est que nous présentons tous les conférenciers, même quand ils n'ont pas besoin d'être présentés. Donc, Daniel Cohn-Bendit est né à Montauban en 1945. Pendant de longues années, dit-il, a été apatride, enfance à Paris. Il a découvert l'Allemagne en 1958, où il a poursuivi ses études secondaires. Il est revenu à Paris en 1966, à la faculté de Nanterre, pour des études de sociologie. Il a participé, comme chacun sait, au mouvement de mai 68. Et après mai 68, il a quitté Paris, bon gré mal gré d'ailleurs, pour s'installer à Francfort. Il a été très actif dans la mouvance de...
C'est ça, hein ?
Il a été très actif. De toute manière, je suis sa biographie autorisée. Hein. Simplement, je l'abrège un petit peu. Il a été très actif dans le mouvement de l'après 1968. Là, il alterne entre, dit-il un moment, éducateur dans un jardin d'enfants et libraire à la Karl-Marx-Buchhandlung dans le quartier universitaire de Francfort. À partir de 1978, journaliste politique, il devient rédacteur en chef du magazine Flachstrand, qui devient une référence sur la place de Francfort. En 1984, je vais vite, hein, il devient membre des Verts allemands. Et en 1989, il est nommé maire adjoint, responsable des affaires culturelles de la ville de Francfort. En juin 1994, il est élu député européen sur la liste des Verts. Je saute toujours, hein, tant pis. Hein. Après 8 ans à la mairie de Francfort, donc ça doit être en 8 ans, c'est-à-dire juin, c'était quand 97, non, c'est ça, plus ou moins.
Je ne sais pas.
Après 8 ans, oui, c'est ça. Après 8 ans à la mairie de Francfort, il passe le relais, renonce à son mandat municipal pour pouvoir se concentrer davantage sur ses activités parlementaires. En 97, il est nommé rapporteur à la commission parlementaire des affaires étrangères sur l'accord d'association euro-méditerranéen. Et en juin 1999, il est élu de nouveau député européen, cette fois-ci en France, où il est tête de liste des Verts. Voilà. Je vais lui passer la parole pour une cinquantaine de minutes à propos des institutions de l'Europe et de leur avenir. Et puis ensuite, je ne doute pas qu'il y aura de nombreuses questions. Et voilà, merci.
Bonsoir. J'avoue que je suis un peu étonné qu'il y ait comme ça chaque jour autant de monde pour des... Comment vous appelez ça ? Des leçons.
Des leçons, bien sûr.
Si je dis à mon fils que j'ai fait une leçon, tenu une leçon ce soir, il va être étonné. Bon, mais... Donc, l'Europe. Puisqu'on parle beaucoup des États-Unis, en ce moment, je ne sais pas si vous vous rappelez de Martin Luther King. Martin Luther King a fait un discours mémorable où il a dit « I had a dream ». Et son rêve... a été un rêve qui a dissous, disons, toute une partie assez néfaste de l'actualité politique américaine et qui a réalisé, je crois, une révolution en donnant l'égalité réelle, disons presque réelle, aux Noirs américains. Moi aussi, j'ai un rêve. Ce rêve s'appelle l'Europe. Et je crois qu'il est temps aujourd'hui... si nous voulons continuer cette construction européenne, à essayer d'avoir quelques idées, même si ce sont des idées visionnaires, des idées qui puissent nous guider dans nos conceptions de cette construction européenne. Je crois que l'Europe telle qu'elle se fait aujourd'hui est un peu l'Europe rêvée il y a 50 ans. C'est à nous aujourd'hui de rêver l'Europe de dans 50 ans. Comment arriver à construire l'Europe pour les 50 prochaines années. Cela fait donc tout juste 50 ans que les mères et les pères de l'Europe, de Schuman à Gasperi, en passant par Monnet et Adenauer, ont commencé à voir plus loin que l'État-nation pour envisager un projet d'Union européenne. Ils avaient vécu la Seconde Guerre mondiale, dont l'Allemagne était sortie vaincue et écrasée. De même, les vieilles puissances européennes, comme l'Angleterre et la France, avaient pris conscience de leurs limites, et ce n'est qu'en s'alliant aux nouvelles grandes puissances de l'époque, les États-Unis et l'Union soviétique, qu'elles avaient pu vaincre l'Allemagne nazie. Par ailleurs, le colonialisme touchait irrémédiablement à sa fin, ce qui les destituait de leur rôle de puissance mondiale. Il ne leur restait plus qu'à se concentrer sur l'Europe tout en constatant qu'il leur était désormais impossible et interdit de se poser en puissance hégémonique. C'est cette situation combinée à l'écrasement de l'Allemagne qui sont à l'origine d'une évolution démocratique et égalitaire sur le vieux continent. C'est aussi de là qu'est née et que s'est accomplie l'idée de l'Europe à travers un mouvement d'intégration qui, à l'époque, dans ce continent fracturé, ne toucha tout d'abord que l'Europe de l'Ouest. La terrible expérience faite au cours des deux guerres mondiales qui s'étaient succédées en l'espace d'un demi-siècle ne pouvait que déboucher sur le projet suivant. Garantir la paix à travers l'intégration, et assez naturellement, cette intégration débuta dans le domaine économique. Il y avait donc des intérêts communs évidents. Cependant, il fallait encore définir un terrain ou situer un point de ralliement pour les peuples européens, ennemis d'hier, une vision en quelque sorte pour donner corps à leur représentation d'union, un discours politique leur permettant de déterminer leur point commun. Forte de l'expérience de domination de l'Allemagne nazie et de l'Empire soviétique, cette Europe de l'Ouest de l'après-guerre choisit d'adopter une position antitotalitaire. Ceci étant, force est de constater que, malheureusement, tout débat se référant à ces deux systèmes totalitaires court le risque de se voir reprocher de relativiser l'un des deux phénomènes totalitaires par l'autre, voire même de nier leur singularité, et ce, du simple fait de les comparer. Je crois et je suis persuadé que c'est une erreur. En effet, la description de ces deux systèmes ne conduit nullement à leur relativisation si l'on a bien cerné la nature propre à chacun ainsi que la forme sous laquelle ils se traduisirent concrètement. Le paroxysme de l'horreur dénoncé dans la domination nazie, inouïe dans l'histoire du monde, découle du fait que l'on a tenté d'exterminer des peuples entiers au nom d'un projet approuvé et soutenu par la majorité de la société allemande. De plus, le fait que cette terreur et les convictions sous-jacentes la rendant possible aient pu devenir l'idéologie dominante ébranla complètement les esprits. Par contre, en Union soviétique, les forces mises tout d'abord en œuvre pour lutter contre la pauvreté et l'inégalité sociale s'enracinaient dans un souci d'idéal moral. Cependant, elles basculèrent rapidement dans un système d'oppression et d'extermination dans une société dominée par les délateurs et les persécuteurs. En dépit de toutes ces différences qui les opposent, et malgré les caractéristiques spécifiques de l'horreur qu'ils génèrent et la singularité de leur approche idéologique respective, ces deux systèmes totalitaires étaient apparentés sur plusieurs plans. Négation de l'individu et de sa valeur, entrave à son épanouissement, subordination et prise en charge de l'avenir de chacun par les dirigeants, déni du système parlementaire et de la séparation démocratique des pouvoirs. À l'opposé, le renouveau des nations européennes telles que la France, le Benelux, l'Italie et l'Allemagne s'accordait avec la priorité à donner au respect de l'individu qui devait de pouvoir s'épanouir librement dans une société responsable et solidaire. Ce consensus pourrait être défini comme suit. Nous, pays européens, défendons tous le principe de l'autodétermination des peuples et du droit de l'individu de disposer de lui-même selon les fondements antitotalitaires qui sont les nôtres. Ne perdons pas de vue le point suivant. La France et l'Allemagne, deux pays qui en fait n'avaient rien en commun, si ce n'est que de se faire la guerre, ont réussi à trouver un terrain d'entente pour élaborer un projet commun. Cette première pierre posée par l'Union européenne, alors en voie de construction, était une sorte de vision qui exigeait des hommes de gigantesques efforts. On leur demandait non seulement de comprendre les contradictions inhérentes à leurs plaies respectives, mais aussi de reconnaître que malgré tout, Ce n'était qu'ensemble qu'ils pourraient en venir à bout. Cependant, la tâche n'était pas facile. Albert Camus écrivait en 1944 à un ami allemand. Vous dites Europe, mais vous pensez terre à soldats, grenier à blé, industrie domestiquée, intelligence dirigée. Vais-je trop loin ? Mais du moins, je sais que lorsque vous dites Europe, même à vos meilleurs moments, lorsque vous vous laissez entraîner par vos propres mensonges, vous ne pouvez vous empêcher de penser à une cohorte de nations dociles menées par une Allemagne de seigneurs vers un avenir fabuleux et ensanglanté. Je voudrais que vous sentiez bien cette différence. L'Europe est pour vous cet espace cerclé de mers et de montagnes, coupé de barrages, fouillé de mines, couvert de moissons, où l'Allemagne joue une partie dont son seul destin est l'enjeu. Mais elle est pour nous cette terre de l'esprit où depuis 20 siècles se poursuit la plus étonnante aventure de l'esprit humain. Camus. Et Camus doutait de la capacité de l'Allemagne à se distancier de cette position historique. 50 ans plus tard, Jörg Semprún devrait parler d'une autre Allemagne, d'une autre dimension des Allemands en Europe, d'une autre capacité des Allemands en Europe, dimension qui explique sans nul doute leurs convictions européennes actuelles. Jörg Semprún. La singularité de l'Allemagne dans l'histoire de ce siècle est évidente. Elle est le seul pays européen qui ait eu à vivre, à souffrir, à assumer critiquement aussi les effets dévastateurs des deux entreprises totalitaires du XXe siècle. Le nazisme et le bolchevisme. Je laisse au savant docteur en sciences politiques le soin de signaler ou souligner les indiscutables différences spécifiques entre ces deux entreprises. Ce n'est pas mon propos pour l'heure. À cet instant où je me souviens, dans ma chambre de l'éléphant, de la neige qui est tombée sur mon sommeil, mon propos est d'affirmer que les mêmes expériences politiques qui font de l'histoire de l'Allemagne une histoire tragique peuvent lui permettre aussi de se placer à l'avant-garde d'une expansion démocratique et universaliste de l'idée de l'Europe. Et le site de Weimar-Buchenwald pourrait en devenir le lieu symbolique de mémoire et de l'avenir. Il n'est guère déterminant de savoir si telle était effectivement l'attitude des sociétés allemandes, françaises ou néerlandaises ou autres européennes, ou bien si un quelconque peuple avait pris conscience de la chose. La majorité des élites politiques, elles, se convertirent rapidement à l'idée antitotalitaire. Il est permis d'aller plus loin dans la pensée de Semprún. L'Europe doit se tirer des les conclusions qui s'imposent de l'expérience des 100 dernières années pour pouvoir réaliser sa vision de paix et de justice. C'est là le seul moyen de trouver une véritable réponse aux questions que nous nous posons sur notre avenir. L'Europe a besoin d'une constitution pour être une Europe unie. L'Union européenne comprend aujourd'hui 15 pays unis autour d'un projet de coopération économique et de paix, soucieux d'assurer à leurs citoyens la liberté de commerce, la sécurité à l'intérieur des frontières de l'Union, ainsi qu'une multitude de droits. Mais les choses doivent progresser. Pour être à la hauteur du rôle qu'elle joue dans l'histoire, l'Europe ne peut se contenter d'être une communauté marchande réunissant des États aux disparités sociales énormes. Si l'Europe souhaite continuer à assurer la paix, la justice sociale, la liberté, le droit des citoyens, l'équilibre écologique et la stabilité, elle doit non seulement accepter l'arrivée de nouveaux pays européens, mais également travailler à l'intégration toujours plus affirmée de ses membres, de sorte que tout retour en arrière soit impensable. Pour ce faire, l'Europe devra opter pour une constitution européenne. Je suis intimement persuadé, si l'Europe ne veut pas être réduite à une multitude de traités multilatéraux, si elle ne tient pas à être une entité au service d'intérêts, si elle tient à être une... Pardon, ça va être plus simple. Bah oui, il me dit 50 minutes, donc il faut aller vite. Ça peut être 60. Vous voyez, en marchant déjà, voilà l'Europe qui se fait. Si l'Europe ne veut pas être réduite à une multitude de traités multilatéraux, si elle tient à être une entité au service d'intérêts communs, à commencer par les questions relatives aux politiques étrangères, de défense et économiques, sans perdre de vue la nécessité d'élargir les domaines, et si, enfin, L'Europe souhaite véritablement incarner une vision de la société, une vision de la paix et de l'entente entre les peuples, alors elle aura besoin de formuler cela dans sa propre constitution. À ce stade, il me paraît important d'insister sur le sens de ces propos. Je suis convaincu qu'une constitution de cette nature ne mène nullement à un renforcement de l'eurocratisme, mais au contraire, elle constitue une condition nécessaire, voire même incontournable à l'instauration d'une Europe au service des hommes et des cultures. Une constitution européenne doit comporter deux aspects. D'une part, une entente entre les Européens sur l'orientation qu'ils souhaitent se donner à leur vie communautaire. Un accord définissant les valeurs jugées fondamentales et porteuses de tout ce qui caractérise l'identité commune européenne. Par conséquent, allant des promesses de paix et d'unité économique formulées par les pères et les mères de l'Europe jusqu'à la garantie de l'État social. Cet accord serait en quelque sorte une grande charte, un cahier européen des valeurs fondamentales et des droits fondamentaux. Cette charte devra cependant être beaucoup plus innovatrice et audacieuse que celle qui nous est proposée à ce jour. D'autre part, l'Europe a besoin d'une idée directrice, d'un plan définissant le fonctionnement du projet. Car, croyez-moi, si nous ne changeons rien à la situation actuelle, à savoir, par exemple, le principe de l'unanimité, le rôle du Conseil de l'Union européenne, la règle fixant le nombre des commissaires, ce nombre ne pourra dépasser, pour moi, un certain seuil sans paralyser le fonctionnement de la Commission, le rôle du Parlement européen et celui de la Cour de justice européenne. Nous nous engageons dans une voie sans issue. La structure existante ne permet même pas d'assurer les assises de l'Union actuelle. Il va sans dire qu'elle devient totalement non viable dans un projet d'élargissement à de nouveaux pays. L'Europe est obligée d'organiser sa souveraineté et pour ce faire, elle doit définir la répartition des compétences institutionnelles. L'Europe doit impérativement se consacrer à l'instauration de cette constitution européenne. Le projet doit être réalisé d'ici l'année 2005, tout juste avant l'accueil de nouveaux États membres. C'est même absolument indispensable, étant donné que, et je tiens à le répéter, sans aménagement structurel, l'Union européenne, déjà mal assurée son fonctionnement, ne pourra pas faire face à l'accueil de nouveaux États. Les débats autour de la Constitution permettraient par ailleurs d'aborder des sujets dépassant le cadre de l'Union européenne telle que qu'elle se présente aujourd'hui. Si nous tenons à donner à la Charte européenne un fondement valable, aussi solide et fouillé que possible, susceptible de défier les 50 années à venir, il faudra également veiller à ce que les États candidats à l'Union européenne participent au débat sur les accords fondamentaux. Toutes ces réflexions nous amènent à la conclusion qu'il n'y a pas de temps à perdre et que les débats autour de la Constitution doivent avancer le plus rapidement possible. Tout ceci confirme une fois de plus ce que j'ai exposé plus haut. L'Europe est bien plus qu'une simple région économique pacifique, elle est devenue la représentation politique d'une coalition antitotalitaire des peuples qui la composent. L'Europe, les pays européens, sont une communauté solidaire. De plus, et contrairement à ce que l'on peut observer par exemple aux États-Unis, l'Europe a quant à elle opté pour un consensus fondamental bien spécifique, à savoir la responsabilité de la société et de l'État dans la protection des citoyens. Le consensus fondamental des États-Unis se réfère, lui aussi évidemment, au principe de liberté et d'antitotalitarisme. Mais ici, il s'agit là d'une conception ultralibérale que l'on pourrait qualifier de dure, hard. Les États-Unis, qui d'un côté considèrent que l'épanouissement de chacun dans un contexte d'égalité des chances est un bienfait absolu, sont d'un autre côté disposés à accepter une injustice flagrante parmi les citoyens, allant jusqu'à accepter une pauvreté et une précarité extrêmes. Il en est autrement pour l'Europe. Il est possible que cette attitude remonte à l'histoire des luttes de classe, à l'expérience acquise par le passé, au constat que beaucoup doivent se battre pour espérer obtenir une certaine prospérité et que par conséquent, les acquis sociaux valent la peine d'être défendus. Dans l'esprit européen, l'égalité exige des systèmes compatibles avec les droits sociaux sans lesquels on ne peut pas véritablement parler de justice sociale, ni dès lors créer les conditions propices à un épanouissement personnel accessible pour tous. La démocratie sociale est le dénominateur commun des pays d'Europe et la société solidaire est un des traits distinctifs de l'Europe. Du Cap Nord à la Sicile, avec bien sûr des variantes et sous des terminologies différentes. N'oublions pas que cette valeur partagée par tous les pays d'Europe est constitutive de leur identité commune en même temps qu'elle la renforce. La démocratie sociale doit donc impérativement être consignée dans une grande charte européenne car elle représente un élément fort de la politique européenne et se situe au-delà du pur et simple libre-échange. C'est ici que doit se dessiner un compromis historique délicat entre les nations de type étatique, comme l'Allemagne ou la France, et les nations se référant à la citoyenneté, comme le Royaume-Uni, où la notion de contrat prédomine. Une entente devrait pourtant être possible, étant donné que les nations de type étatique sont de plus en plus convaincues que l'aptitude de l'individu et des groupes sociaux à s'engager dans un contrat, alors que les nations à citoyenneté forte comme l'Angleterre, sont de plus en plus persuadées de la nécessité de respecter des conventions internationales des droits de l'homme. Les Européens sont donc invités à se prononcer sur des décisions prises par l'Union à l'heure où elles sont l'objet d'un certain scepticisme. Une Magna Carta européenne devrait exister avant tout pour consolider la dimension politique de l'Europe, à la fois comme vision et comme projet. Celle-ci ne peut dès lors être simplement introduite par une convention, car elle a également pour mission de stimuler les Européens à ce projet. Seule une union politique définie par le texte d'une constitution et s'appuyant sur une charte des droits fondamentaux peut donc réussir à atteindre les objectifs visés. L'Europe doit comprendre et imposer les intérêts européens. Les événements historiques récents nous ont confirmé que, privée d'une dimension politique, l'Europe ne sera jamais assez puissante pour garantir à elle seule la paix et la liberté sur son propre continent. Les Européens et l'Europe elles-mêmes ont dû en convenir au moment de la guerre en ex-Yougoslavie. Le constat fut douloureux et nombreux furent les Européens qui le payèrent de leur vie. Dans cette guerre, l'Europe n'avait aucun poids politique. Vu la divergence des positions en son sein, celle-ci n'a pas été en mesure d'intervenir pour différer le cours des choses ou bien stopper cette guerre. Cette divergence d'intérêts des États européens a donc finalement eu le dessus sur une prise de position proprement européenne. À ce stade, l'idée d'une politique commune européenne était par conséquent hors de propos. Des alliances du passé conditionnaient des traditions encore vivaces, celles liant par exemple la France et l'Angleterre à la Serbie ou l'Allemagne à la Croatie et empêchaient, semble-t-il, tout règlement politique du conflit. Ce manque d'entente eut de très graves conséquences. En effet, en se ralliant finalement à la position allemande et en reconnaissant l'indépendance de la Croatie, l'Europe perdit sa seule chance de résoudre le conflit des Balkans. Mais attention, non que l'Europe eût tort d'accepter que les Croates, qui souhaitaient se séparer de la Yougoslavie, proclament leur indépendance. Toute l'erreur provenait en fait de ce que l'on a négligé de considérer en même temps le problème vaste et complexe des minorités. Notamment, à l'intérieur des frontières de la Croatie, de la Bosnie et de la Serbie, mais encore dans la République de Krajina, enclave serbe en Croatie, aux prises avec des tensions ethniques diverses, ou même le danger encouru par les Albanais installés au Kosovo sur un sol serbe. Il aurait fallu se pencher avec plus d'attention sur tous ces points éminemment sensibles. Si on a eu tort de refuser les prétentions ethniques, si on a eu raison de refuser les prétentions ethniques de la nation serbe, par contre, on a eu tort d'accepter celles de la Croatie. L'Europe aurait dû exiger des garanties juridiques sérieuses pour les minorités ethniques épargnant ainsi d'avoir à vivre le sort des populations déplacées, contraintes à fuir. Il est permis de penser que la guerre qui suivit aurait dès lors pu être évitée, ou du moins, au moins, sans doute, le cauchemar de Srebrenica. L'Europe aurait dû considérer le bien fondé de la constitution d'un nouvel État avant de reconnaître sa création. L'Europe aurait dû comprendre qu'au-delà de la souveraineté nationale, il existe une souveraineté éthique autorisant un engagement au nom du bien-être des hommes indépendamment des frontières nationales. La leçon à retenir de tout ceci est plutôt amère, mais d'autant plus importante. L'intérêt européen n'est pas simplement la somme des intérêts nationaux. Au contraire, concrétiser l'idée de grande charte ou de tout autre document définissant les objectifs communs que s'est fixé l'Union européenne permettrait d'affirmer d'emblée la dimension politique de l'Europe. Contrainte à réfléchir sur sa raison d'être, l'Europe se dégagerait du cadre étroit des préoccupations administratives et bureaucratiques. En confiant à Javier Solana la représentation de ses intérêts en matière de sécurité et de politique étrangère, l'Union européenne a accompli un geste symbolique, mais malheureusement un contresens. Un représentant de l'Europe doit s'asseoir sur une légitimité proprement européenne et pour ce faire être membre de la Commission. Il ne le suffit pas d'être mis en place par les gouvernements européens. L'Europe a besoin d'institutions au caractère démocratique reconnu. Le ministre des Affaires étrangères allemand a prononcé à l'université de Humboldt de Berlin un discours à juste titre remarqué. À cette occasion, il a évoqué la deuxième exigence devant être remplie par la Constitution européenne, outre l'élaboration de la Grande Charte européenne. Pour pouvoir fonctionner, l'Europe doit non seulement penser à s'élargir, mais également envisager une réforme indispensable de ces structures. Pour ce faire, il faut que le pouvoir de l'Union européenne ne soit plus lié aux pouvoirs gouvernementaux qui doivent dès lors être transférés à une commission répondant aux critères démocratiques. Le Parlement contrôle la Commission et la Cour de justice européenne garantit le respect du droit européen. Les débats auxquels l'Europe fera participer son peuple concerneront la répartition des pouvoirs et la légitimité démocratique. L'Europe a un besoin urgent de débattre de la Constitution. Permettez-moi de vous dire comment l'Europe peut aller de l'avant, comment elle peut éviter de se scléroser et quelles sont ses véritables chances. J'ai pensé au modèle suivant. Le pouvoir législatif européen serait assuré par deux chambres. La première serait le Parlement européen directement élu par le peuple européen. La compétence législative de ce Parlement serait telle que toutes les questions touchant aux intérêts de l'Europe y seraient débattues et tranchées, mais pas plus. Autrement dit, le principe de la subsidiarité serait respecté à la lettre et tout ce qui ne s'inscrirait pas dans le cadre de la compétence européenne serait du ressort des parlements nationaux ou régionaux. Cette distinction doit être respectée sans exception. Comme l'expérience nous permet de le constater, les hommes politiques, y compris les parlementaires européens, ont une fâcheuse tendance à dépasser le cadre de leurs compétences. Il est par conséquent indispensable de les contrôler. Une deuxième chambre devrait, me semble-t-il, pouvoir assurer ce contrôle et serait en quelque sorte garante du principe de subsidiarité. Le peuple n'élirait pas directement cette seconde chambre, dont les membres seraient en fait choisis par les représentants des parlements nationaux et régionaux. Parallèlement au modèle du Sénat américain, la représentation de cette deuxième chambre serait de type paritaire et non proportionnelle à la démographie de chaque pays. Elle aurait pour mission de représenter les intérêts des différents États et de leurs sociétés civiles et politiques. Comprenons bien que ce ne sont pas les gouvernements qui seraient représentés au Parlement, qu'il s'agisse de la première ou de la deuxième chambre, mais que nous aurions affaire exclusivement à des parlementaires élus par le peuple. Situation qui, non seulement renforcerait leur légitimité démocratique, mais consoliderait également l'identification des hommes à leurs représentants. Il est essentiel que dans l'Europe de demain, les hommes puissent s'identifier plus fortement à leurs institutions. La Cour de justice européenne devrait, en sa qualité de dépositaire du pouvoir judiciaire et gardienne de la Constitution européenne, pouvoir affirmer sa position de garante de l'ensemble de la construction de l'Union européenne. Elle devrait en particulier veiller au respect non seulement des compétences constitutionnelles entre les assemblées, mais également des droits des citoyens. Mais quel gouvernement pour l'Europe ? La forme de gouvernement et celle de la gouvernance à adopter seront les éléments clés pour l'Europe de demain. Le gouvernement européen ne sera plus un gouvernement relégué au second plan. Affranchi de la tutelle des intérêts nationaux des divers États membres, il se consacrera aux intérêts proprement européens. L'exemple de la guerre de Bosnie m'avait permis d'évoquer les conséquences de l'assujettissement de l'Europe aux schémas nationaux qui, immanquablement, l'a conduit à sa perte. C'est là que réside toute la différence entre l'Europe de demain et celle d'aujourd'hui. À l'heure actuelle, le Conseil de l'Union européenne, composé des ministres des 15 États membres ou des chefs de gouvernement, est en fait le gouvernement de l'Union européenne. Ce Conseil n'est qu'un organe représentant les intérêts nationaux et ils s'en tiennent à ça. De plus, l'objectif premier de ce Conseil des membres des gouvernements nationaux est précisément de s'affirmer en tant que tel. Pour ce faire, ils recourent à une sorte de mythe dans lequel ils auraient à défendre leurs nationaux contre un envahisseur insondable baptisé pour le coup Europe, alors qu'en réalité, ils sont les seuls protagonistes de ce drame. Même si le mythe a joué un rôle essentiel dans l'histoire de nos civilisations, et quand on sait quel rôle il peut encore jouer dans la mémoire et la conscience collective, je me permets d'exprimer certains doutes quant à son utilisation dans la conscience collective et dans la pratique européenne. Prenons un exemple concret. Des décisions complexes et sources de contrariété, comme par exemple dans le cas de la politique agricole, sont prises au sein du Conseil. Une fois ces réunions au sommet terminées, chacun retourne tranquillement chez lui et les citoyennes et citoyens entendent dire que Bruxelles, fantasme absolu des hommes politiques, vient encore une fois de prendre des décisions irraisonnées. La ville de Bruxelles, donc, en mythe de production interminable de décisions. Bruxelles apparaît dès lors comme cette chose abstraite et source d'hétéronomie, cette incarnation de l'eurocratisme aveugle, Bruxelles. Cette dimension insondable de l'Europe, c'est précisément et souvent délibérément sous cet angle tronqué qu'elle est représentée par les gouvernements. Ce n'est pas évidemment sur de telles bases que l'on peut espérer développer une politique européenne et des intérêts européens reconnus par les citoyens européens. Une commission au pouvoir renforcé assumant la fonction de gouvernement européen doit par conséquent remplacer le Conseil. Cette commission devra réussir à penser véritablement européen. Elle devra s'affranchir de cette politique au service de chaque État pour devenir un organe fort au service de l'Europe. Mais cette évolution exige l'introduction de réformes décisives. Les commissaires ne devraient dès lors plus être délégués par les gouvernements. Le seul fait d'être nommé ne devrait pas constituer une légitimité suffisante. Il est indispensable que les commissaires bénéficient d'une véritable légitimation démocratique. En effet, la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui soumet les membres de la Commission à un dilemme comparable à celui observé au sein du Conseil. Ils sont trop soumis aux pressions des intérêts nationaux et insuffisamment légitimés et reconnus par le peuple européen. Attardons-nous, par exemple, un instant sur les présidents qui se sont succédés à la tête de la Commission. Combien d'entre eux auraient, selon vous, obtenu ce mandat par vote direct ? Tout ce remue-ménage indigne autour de leur désignation ne favorisent pas l'accueil que les Européens leur réservent et ne contribuent pas à renforcer leur légitimité. Il résulte de tout ceci que les présidents de la Commission ne réussissent pas à avoir le dernier mot dans un conflit avec des gouvernements nationaux. Pourtant, il faudra bien que l'on en arrive à cela si l'on souhaite que l'Europe réussisse à s'affirmer vis-à-vis des gouvernements nationaux. Je propose par conséquent d'introduire une réforme radicale de la Commission dont la mission serait, d'une part, de consolider le pouvoir du gouvernement de l'Union européenne et, d'autre part, de se conformer aux intérêts de l'Europe. Un tel gouvernement, puissant et actif, agissant au nom de l'intérêt commun européen et se situant au même niveau que les gouvernements nationaux, voire au-dessus de ces derniers, doit nécessairement obtenir des citoyens la confirmation de sa raison d'être. Ladies and gentlemen, the President of the United States of Europe. Eh oui, c'est dans l'actualité. Deux voix, on ne sait toujours pas. Qui ça? Ne vous en faites pas, vous avez le temps. Ça va durer une dizaine de jours et puis ça va se faire terminer devant une cour de justice quelconque. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Deux voies devraient, me semble-t-il, permettre d'en arriver là, ou peuvent en arriver là. Premièrement, l'élection directe au suffrage universel du président de la Commission. Cette élection pourrait être modulée par l'élection d'un collège électoral représentant d'une manière proportionnelle les différents États membres. Mais, à la différence des États-Unis d'aujourd'hui, non pas avec le système « the winner takes them all ». Vous savez, vous prenez tous les élus du collège électoral si vous gagnez un État. Non, il y aurait une représentation proportionnelle des délégués au collège, et surtout, si nous faisons une élection au suffrage universel, les délégués ou les représentants au collège seraient les ambassadeurs des différentes forces politiques et des candidats, car les candidats n'auraient pas la nationalité de chaque pays, ce qui est évident. Donc, ce seraient des personnes qui, effectivement, soutiendraient la proposition d'un candidat, les propositions et la candidature pour la présidence de la Commission. Dans ce contexte, le modèle politique des États-Unis mérite que l'on s'y attarde. Le président y est légitimé de manière démocratique. Il ne prend pas de décision concernant les affaires des États, tout en s'affirmant vis-à-vis de ceux-ci en matière de politique étrangère, de sécurité, de l'environnement et de politique sociale. Deuxièmement, autre possibilité, l'organisation d'un scrutin proportionnel sur base de listes électorales européennes unitaires, autrement dit transnationales. Lors des élections européennes, les citoyens européens auraient à faire en effet deux voix. Avec leur première voix, ils éliraient les membres du Parlement européen, tandis qu'avec la seconde, le président de la Commission. Le président de l'Union européenne serait en fait le candidat tête de liste européenne ayant récolté le plus grand nombre de suffrages. Concrètement, cela voudrait dire que dans l'une de ces listes, les conservateurs européens auraient choisi un leader qui pourrait être, pour ne fâcher personne, je prends des politiques du passé, donc les conservateurs auraient Helmut Kohl, par exemple. Pour les sociodémocrates, un autre homme du passé, Felipe González. Pour les Verts européens, bah, vous avez déjà deviné. Il faudrait que le président, après avoir consulté le Conseil, réunisse son gouvernement, pouvoir exécutif, autrement dit la Commission, et propose ce choix au Parlement, lequel le confirmerait ou pas. Tout cela nous amène donc à la vision suivante. Les citoyens, en tant que citoyens européens, éliraient ceux qui devraient les représenter au sein des institutions européennes par un suffrage universel direct, et ces mêmes citoyens, en tant que citoyens nationaux, seraient représentés par une seconde chambre qui garantirait, comme cela a été dit précédemment, le respect du principe de subsidiarité. Référendum, est-ce un drame ou est-ce la démocratie ? Cette démarche renforcerait dans un premier temps les structures européennes vis-à-vis des structures nationales. Ensuite, elle créerait la tension dont la politique européenne a besoin, puisqu'en effet, la population assumerait sa part de responsabilité dans la composition des institutions européennes, lesquelles en contrepartie gagneraient en légitimité. Les citoyens feraient de l'Europe un sujet de conversation détaché des intérêts et des politiques nationales en l'abordant exclusivement selon sa dimension propre. Pour moi, il va de soi que cette nouvelle conception de l'organisation de la politique européenne et que la Constitution européenne doivent, en contrepartie, réserver aux citoyens européens de nouveaux droits spécifiques. Je pense en particulier aux droits d'initiative parlementaire accordés aux citoyens européens sous forme de référendum et à l'intégration dans le processus d'élaboration des politiques européennes des organisations non gouvernementales concernées. Le modèle de transparence, par exemple, adopté par la Convention dans l'élaboration de la Charte des droits fondamentaux, doit servir de référence et d'exemple. Celle-ci avait en effet ouvert un site Internet régulièrement alimenté sur lequel se trouvaient, entre autres, tous les documents utilisés dans l'élaboration de cette charte et où chacun pouvait suivre son évolution ainsi que les commentaires apportés. Il est primordial de veiller à ce que la nouvelle Constitution fasse l'objet de débats dans tous les pays membres et donne lieu à un plébiscite. Je pense à une véritable consultation populaire et non à un vote au sein d'un Parlement quelconque, puisqu'en effet l'Europe ne peut évoluer que si les peuples l'adoptent vraiment. Ainsi, les peuples européens seraient en mesure de prendre leur avenir en main. Supposons qu'un pays rejette cette Constitution. Eh bien, alors il se retire. Conséquence triste, peut-être, mais incontournable. L'Europe n'étant pas le modèle d'un système enclin à violer l'autonomie des peuples. Et c'est là toute l'erreur d'un référendum, par exemple, au Danemark, sur l'euro. Au Danemark, sur l'euro, on dit aux Danois, vous voulez l'euro ou vous voulez pas l'euro? Mais si vous voulez pas, c'est pas grave, tout restera comme avant. On protégera votre monnaie, donc vous pouvez continuer comme avant. Ce n'est pas la bonne question. La seule question qu'il faut poser, c'est est-ce que l'euro fait partie à long terme, la monnaie commune, de la structure de l'Europe? Si oui, on est pour, on est contre, on est pour, on est contre l'Europe. Si les Danois ne veulent pas de l'Europe, ils ont le droit. Eh bien, ils sortent. Et alors, on poserait la véritable et seule question aux Anglais, aux Danois, aux Suédois. Est-ce que vous êtes pour l'Europe ou contre? Mais cette Europe à la carte, où chacun peut prendre un peu, avoir le beurre et l'argent du beurre, je crois que c'est un grand problème et que ça ne peut pas fonctionner. Ce référendum donnerait donc non seulement un dynamisme politique au projet de constitution, mais il permettrait également à l'ensemble de la collectivité européenne de s'approprier sa propre histoire. Ne perdons pas de vue que la mise en scène politique des décisions européennes et des votes conditionne l'émergence d'un espace public européen, lieu par excellence de l'expression d'une démocratie européenne. Il s'agit de prendre dès aujourd'hui les initiatives qui s'imposent pour arriver à cette Europe forte et unie. De l'éthique de la souveraineté à la souveraineté éthique. Il est absolument nécessaire que les décisions puissent être prises à la majorité qualifiée si l'on tient à remplacer la politique d'intérêt et ses dilemmes par une politique proprement européenne. Ceci, et quoi qu'on en dise, ne signifie pas la fin de la souveraineté nationale. Bien au contraire. C'est en affirmant une souveraineté européenne, s'appuyant sur des valeurs communes, que l'on peut espérer progresser vers un niveau de souveraineté nouveau et supérieur. Si la politique européenne se construit sur un fondement éthique tel que le définirait une charte fondamentale, une charte européenne, l'évolution de la souveraineté nationale est déjà chose assurée. La souveraineté européenne sera une souveraineté éthique au service d'idéaux, fondement même de l'Union européenne, à savoir l'instauration en Europe d'une société solidaire, antitotalitaire et écologique. Une Europe incarnant l'idée de développement durable et le principe de la responsabilité face à l'avenir tournerait le dos aux idéologies néolibérales du moment. Il ne s'agit pas de remettre en cause l'économie de marché, mais bien la prédominance du marché et des lois. Après le mythe de l'État salvateur, je récuse le mythe du marché salvateur. La nouvelle souveraineté européenne part de l'hypothèse selon laquelle nous réussirons à obtenir l'intervention du secteur public, d'une part, et que nous serons en outre capables de lui donner des impulsions et de les contrôler. Ce n'est qu'en réussissant à faire des intérêts publics européens un sujet politique d'intervention publique que l'on peut espérer canaliser la bureaucratie européenne en crise de croissance. Que les choses soient claires, il n'est pas question de supprimer la souveraineté nationale, mais de l'élargir. Il n'en demeure pas moins que la souveraineté nationale a ses limites. Lorsque dans un pays, une communauté risque l'extermination, c'est alors que doit intervenir une souveraineté éthique supérieure qui a non seulement le droit, mais également le devoir de s'interposer pour mettre fin à cette tyrannie de la politique interne du pays en question. Un tel consensus nourri de souveraineté éthique permettrait alors à une Europe ainsi conçue d'intervenir d'une seule voix dans des conflits tels que ceux que connut la Yougoslavie dans un souci de pacification et surtout avant qu'il ne soit trop tard. Mais allons le plus loin. Il faut absolument que l'aide aux pays les plus pauvres et à ceux qui sont en voie de développement soit désormais pensée selon ce consensus et ses critères, loin des exigences des intérêts nationaux. La dimension éthique de la souveraineté européenne permet de se fixer de tels objectifs et de les réaliser tant en Europe qu'en Afrique, par exemple. Il est utile de constater que les États européens, qu'ils soient grands ou petits, sont de moins en moins aptes à défendre leur souveraineté nationale seule. C'est à l'Europe que devient la tâche d'assurer à tous le maintien de leur souveraineté, et ce, au nom de la souveraineté européenne, quels que soient par ailleurs les domaines de la politique concernée, la sécurité, la monnaie, l'environnement et, dans certains cas, le social. Nous avons besoin d'une orientation sociale et écologiste de la mondialisation. J'aime aborder ce problème, ce phénomène en plein essor qu'est la mondialisation. C'est justement face à ce processus inéluctable de globalisation de l'économie de marché qu'il est urgent de reconsidérer le rôle de l'Europe. Je crois pouvoir affirmer que seule l'Europe, autrement dit l'Union européenne, présente les critères et la force politique qui permettent d'intervenir pour structurer et canaliser ce mouvement et donner une orientation sociale et écologiste à la mondialisation. Il va de soi qu'il faut réglementer le marché mondial, contrôler les transactions financières à l'échelle de la planète et ouvrir les marchés aux pays en voie de développement. Nous disposons maintenant de conventions internationales pour la protection du climat. Rio, Kyoto, La Haye marquent les débats de cette innovation au niveau mondial. Nous disposons également de conventions internationales pour la protection de la main-d'œuvre, pour assurer l'égalité des sexes et protéger les enfants. Il est indispensable de toutes ces conventions de les intégrer dans les accords de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, afin de réguler le marché planétaire. L'Union européenne doit donc défendre ses objectifs sociaux et écologiques au moment des négociations de l'OMC, sans quoi cette organisation court le risque de se réduire à un organe au service des grands groupes économiques et financiers. L'impact des manifestations, comme par exemple Seattle, contre l'Organisation mondiale du commerce et la peur de la mondialisation et de ses conséquences injustes sont là pour nous tenir en éveil. Assurer un commerce mondial socialement et écologiquement équitable est un impératif qui doit faire partie des objectifs primordiaux de l'Europe. Dans ce contexte, il est également indispensable d'impliquer les entreprises désireuses de respecter l'avenir dans sa dimension sociale et écologique. Je pense notamment à l'émergence de cette nouvelle pratique que constitue le commerce éthique, soutenu par certaines entreprises dont les investissements ne sont pas indifférents aux problèmes de gestion des ressources, aux économies d'énergie, aux programmes visant la protection des climats. Je souhaiterais ajouter ceci. Qui a dit que nous devons régler nos facteurs d'énergie, de pétrole et de gaz en dollars? C'est écrit dans quelle Bible? L'Union européenne serait-elle, malgré son poids économique, politiquement si faible qu'elle ne pourrait pas imposer l'euro comme moyen de paiement à ses partenaires au lieu du dollar? Étant de toute façon dans l'obligation d'apporter un soutien financier à la Russie, par exemple, nous pourrions payer en euros le gaz et le pétrole que nous lui achetons. Nous pourrions également agir de même avec l'Algérie et l'Iran dans le cadre de contrats de coopération et d'accords d'association. Seule une Europe déterminée, sûre de sa force politique, à même de choisir les structures qui lui conviendraient, pourra se subsister face à la prédominance culturelle et politique des États-Unis. Fonds de pension, capitaux flottants et spéculatifs, tous vont vers le pôle supposé être dominant. Il faut se dégager de ces préjugés qui subordonnent aux États-Unis tout ce qui est politique, économique et culturel. Nous devons nous donner les moyens de devenir des partenaires à part entière. À l'échelle mondiale, la démocratie s'appuie d'une part sur un tissu juridique qui est en passe de mailler le globe. Prenons par exemple la nouvelle Cour pénale internationale de La Haye. Et d'autre part, sur l'intégration des marchés mondiaux à un système de rapports égalitaires, sociaux et écologiques, d'où a été écartée toute prétention de domination. Mais si nous parlons comme cela de l'Europe, il faut poser la question la plus difficile, les frontières de cette Europe. Nous touchons là un aspect central des choses. Quels pays pourront bien faire partie de l'Europe si l'on considère que tout le monde est en droit de revendiquer les valeurs définies précédemment et qu'il faut de plus poursuivre l'intégration de l'Europe et son expansion? Si le poids de l'Europe s'affirme, si elle définit clairement son caractère identitaire, elle en arrivera indubitablement à se poser quelques questions sur le problème de son expansion. L'histoire nous avait simplifié les choses. L'Europe s'étendait de l'Atlantique au rideau de fer et en sa qualité de membre de l'OTAN, la Turquie devait également en faire partie. Cette délimitation a perdu toute sa logique après la chute de l'Empire soviétique. Il convient effectivement de redéfinir les frontières de l'Europe. Dès demain, nous allons accueillir les pays de l'Europe centrale et orientale. Les négociations pour l'adhésion de ces pays s'achèveront dans les années à venir et ceux-ci seront bientôt membres de l'Union européenne. Et après, qu'adviendra-t-il de la Roumanie, de la Moldavie, de l'Ukraine, de la Biélorussie, de la Russie? Ces pays, à l'exception de la Russie qui recouvre une partie de l'Asie, font géographiquement et culturellement partie de l'Europe. Mais un tel critère suffirait-il à définir les frontières extérieures de l'Union européenne? Je le dis franchement, il me semble que non. Ces limites, les limites de l'Europe, sont celles d'une entité politique forte capable de garantir la stabilité géopolitique. Le souci de réussir l'intégration des pays de l'Union européenne exige que l'on exclue toute adhésion de la Russie. La Russie est trop grande pour l'Europe, qui serait dépassée par ses problèmes, sa complexité et ses dimensions extravagantes. Si nous intégrons la Russie dans l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui, telle que nous pouvons nous la projeter, cela voudrait dire que les Russes auraient à eux seuls la moitié des députés européens. Que la Russie. L'intégration de la Russie représenterait un danger pour les fonctionnements des institutions européennes. J'ai dit au début que toute velléité hégémonique était la mort de l'Europe. De plus, les prétentions géopolitiques de la Russie rendent impossible son intégration dans la Fédération politique de l'Europe. C'est la raison pour laquelle l'on devrait voir apparaître d'autres sous-systèmes autour de l'Europe. La Russie pourrait être le centre de l'un. Autour de la Méditerranée se formeraient, par exemple, également d'autres systèmes. Je le dis et j'insiste, il faut que la Russie puisse exister à côté de l'Union européenne. Il faut l'aider à se lancer avec les pays de l'ancienne Union, dans l'Union de la Russie, dont les handicaps sont comparables à un processus d'intégration semblable à l'Europe, à celui de l'Union européenne. Je le répète, on ne peut envisager l'adhésion. Aider la Russie, en faire un partenaire stratégique, réunir autour de l'ancienne CEI une capacité de s'intégrer comme l'a fait l'Europe, tel est, je crois, l'équilibre que nous devons trouver. De tout ceci ressort que l'Ukraine et la Biélorussie doivent actuellement rester à l'écart de l'intégration européenne afin que la Russie ne se trouve pas complètement isolée. Il faut au contraire, comme je le disais, aider ces pays à mettre sur pied une identité propre en coopération avec la Russie et d'autres anciennes républiques soviétiques. Il faut les aider à assurer pour l'Europe centrale et orientale une stabilité afin que dans ces régions règne la paix et la sécurité. Et il reste un grand problème pour l'Europe, la Turquie. La Turquie, l'avenir de la Turquie, il y a deux concepts. Je l'ai défini comme l'avenir de la Turquie, Bagdad ou Barcelone. En ce qui concerne la Turquie, un tel processus serait certainement problématique, mais en même temps clarifierait certaines choses. Dans le cadre de l'intégration européenne, l'Europe a à respecter sa promesse historique vis-à-vis de la Turquie, à savoir reconnaître son appartenance à l'Europe. Cependant, la question à poser est la suivante, la poser à la Turquie. Êtes-vous disposé à partager cette intégration, sachant que conformément aux valeurs défendues par l'Europe, le respect des droits de l'homme est une obligation absolue. C'est uniquement en répondant par un oui, soit en condition, que l'adhésion de la Turquie pourrait être envisagée. Nous nous retrouvons donc face à une solution dont l'issue est incertaine. J'imagine l'ambivalence des citoyens turcs qui se demanderaient « Mais pourquoi l'Europe ? Pourquoi ne serait-il pas possible plutôt d'envisager pour la Turquie une union avec l'Est du bassin méditerranéen ?» Autrement dit, et je vous rappelle, je rêve, je me projette dans 50 ans. Donc ne regardez pas les images que vous voyez à la télévision aujourd'hui, dans ce que je vais dire. Oubliez ces images. Une union avec l'Est du bassin méditerranéen comprenant la Turquie, la Jordanie, Israël, la Syrie, la Palestine et l'Égypte. Une telle union devrait pouvoir se réaliser en l'espace d'une cinquantaine d'années et changerait radicalement les relations avec le Caucase et la Russie. Tant pour l'Union européenne que pour la Turquie, le fait que la candidature ait été souhaitée et acceptée ne peut signifier une décision arrêtée sur l'adhésion elle-même. Il faudrait que les parties concernées en parlent ouvertement. Cette candidature représente, ne l'oublions pas, une chance historique à saisir pour introduire une stabilité politique dans tout le bassin méditerranéen. C'est pourquoi la Turquie hésite entre deux avenirs possibles, entre Bagdad ou Barcelone. Les deux voies sont possibles, pensables, incertaines. Pour la Turquie, Barcelone balayerait l'intégrisme kémaliste traditionnel et permettrait une autonomie régionale avec des gouvernements régionaux tels qu'ils existent en Espagne. Il faudrait donc que le pays accepte la décentralisation au profit des régions, y compris une gestion autonome par les Kurdes au sein de l'État turc. Bagdad, au contraire, signifie un renforcement du centralisme et de l'autoritarisme kémaliste et par le même le refus de l'Europe. Pour finir, je voudrais poser un problème qui cause beaucoup, qui fait couler beaucoup d'encre et qui pose beaucoup de problèmes en Europe. L'Europe a besoin d'immigration. L'Europe est une terre d'immigration. Comme nous l'enseigne l'histoire, elle a besoin d'immigration tant pour des raisons démographiques qu'économiques. Sans immigration, l'Europe n'ira pas très loin. L'immigration s'accompagne d'un apport d'énergie. Il s'agit là d'une réalité bien banale que l'histoire nous enseigne. Mais comment l'Europe pourrait-elle arriver à vaincre ses peurs irrationnelles face à l'immigration? Comment arriverons-nous à ne pas reproduire les erreurs fatales commises il y a une cinquantaine d'années? À l'époque, nous avions demandé de la main-d'œuvre bon marché. Nous avons ensuite constaté que nous avions envoyé des êtres humains. L'immigration est un processus difficile et long pour les deux parties concernées. L'immigration signifie, doit signifier, que chacun le comprenne bien, que toutes les personnes qui arrivent, quelle que soit leur origine, deviendront un jour des Européens, feront partie de l'Europe et y resteront. Nous avons besoin d'immigrants et non simplement d'informaticiens en possession d'une certaine green card, définie comme des immigrants utiles. Évoluer la notion d'utile en parlant d'immigrants suggère que les autres soient nuisibles. Tous les débats autour de l'utilité de l'immigration tel qu'il se présente actuellement en Europe et particulièrement en Allemagne est un relent de fatalité et d'hypocrisie. Les immigrants ne sont ni bons ni mauvais. que l'on considère en eux l'être humain ou bien la personne effectuant certaines fonctions. Comme toujours chez les hommes, il y en a des bons, il y en a des mauvais, des professionnels de l'informatique et des amateurs sans formation. Et alors ? Ceci me fait penser aux affirmations philosémites selon lesquelles le peuple juif serait un peuple très particulier. La preuve en serait le nombre impressionnant de prix Nobel. Ceci est faux. Les Juifs sont aussi peu un peuple de prix Nobel qu'un peuple de banquiers. Jean-Paul Sartre avait bien compris la chose quand il disait que l'antisémitisme ne serait vaincu que le jour où l'on prendrait les Juifs pour ce qu'ils sont, des êtres humains comme vous et moi, des policiers et des malfrats, des infirmières et des femmes de joie, des prix Nobel et des imbéciles. En ce qui concerne les immigrants, il n'en est pas autrement. Les immigrants sont confrontés à des situations sociales auxquelles ils sont obligés de s'adapter, comme tous les habitants du pays d'accueil d'ailleurs. La disparité des expériences sociales vécues et les inégalités entre les évolutions historiques nécessitent une organisation de l'immigration au niveau de l'Union européenne. C'est une condition nécessaire à toute harmonisation. Cependant, l'Europe n'arrivera à gérer ces différences que si elle prend conscience du devoir d'intégration que doit aussi bien l'amener à une politique sociale et une politique de reconnaissance de l'immigration. Elle devra donc prendre en considération le citoyen politique avec le droit de vote qui en résulte et le citoyen social ayant accès aux institutions intégrantes qui vont, si vous voulez, de l'école maternelle à la vie professionnelle en passant par le logement. Je tiens à insister ici tout particulièrement sur un élément, la douleur de l'immigration, la douleur de devoir abandonner sa patrie est quelque chose que personne n'a le droit de sous-estimer. Toute personne qui immigre laisse derrière lui ses amis et son pays pour tenter sa chance ailleurs. Avant d'être un immigrant, il est un émigrant et il lui faut du temps pour retrouver ses repères dans ce nouveau monde culturel. Il doit absolument acquérir une langue complètement étrangère à la sienne. Sans cette nouvelle langue, il ne pourra jamais prendre la parole. Il faudra bien que l'Europe finisse par comprendre qu'elle ne peut se passer d'immigrants. Elle devra reconnaître leurs besoins et se tenir prêt à les aider. Parmi les Européens, l'extrême droite fasciste s'attaque avant tout, comme par exemple en Allemagne, aux hommes de couleur, par peur, dit-on, d'un avenir soutenu en cela par une partie de la population. Les démocrates devraient tous s'attacher à bien leur expliquer à cette droite et à cette population que ces étrangers que nous nommons immigrés et que ces émigrés font partie maintenant de notre société. Il serait en outre nécessaire d'insister sur le fait que leur présence ici est souhaitée. Tous les démocrates doivent adhérer à cette idée fondamentale. Toute personne, en particulier tout politique, mettant en doute la nécessité de l'immigration, favorise les actes de terrorisme et d'exclusion de la part de l'extrême droite. Au lieu de lui faire comprendre qu'elle, l'extrême droite, s'isole dans la société, on lui fournit des raisons de croire que son attitude est légitime. Il est au contraire indispensable de donner à l'immigration une orientation responsable. Nous avons besoin de lois claires sur l'immigration, démontrant à l'intérieur du pays comme à l'étranger que l'immigration est un facteur décisif pour notre avenir. En outre, et indépendamment de tout ceci, de toute réflexion utilitariste, nous avons besoin d'une harmonisation du droit d'asile. Garantir l'asile politique aux personnes privées de leurs droits fondamentaux est un élément de base du consensus de tous les Européens. Cela fait partie de la culture politique européenne. Il faut aborder le droit d'asile politique selon sa dimension propre et en assurer la protection. Cette garantie du droit d'asile est l'une des valeurs fondamentales caractérisant l'identité européenne. Permettez-moi pour finir, pour vous expliquer, pour vous faire comprendre la folie des êtres humains quand on parle de l'immigration, en citant Benjamin Franklin, qui a été l'un des premiers à signer la Déclaration de l'indépendance de l'Amérique et qui est aussi l'inventeur du paratonnerre. Donc un homme pas bête. Il s'agit d'un homme dont on pourrait croire qu'il est intelligent et qui pourtant nous permet de prendre conscience de ce que même les gens intelligents peuvent perdre leur capacité intellectuelle est assaillie par des idées saugrenues une fois confrontés au phénomène de l'immigration. Le problème de Benjamin Franklin, c'est à l'époque, il réfléchissait sur l'immigration catholique allemande. Les Allemands catholiques du Palatinat immigraient aux États-Unis. La majorité des immigrants, mais des Américains, étaient des protestants. La grande différence entre les catholiques et les protestants est la suivante. Les protestants travaillent toute la semaine, très dur, et le dimanche, ils vont à l'église et après, ils se retrouvent entre eux. Vous n'avez qu'à réfléchir. Par exemple, pendant des années, des dizaines d'années, il est impossible d'organiser un match de football le dimanche en Angleterre. Ça ne se faisait pas. Les catholiques travaillent toute la semaine. Le dimanche, ils vont à l'église. Mais après, les catholiques du Palatinat, ils faisaient la fête. Ils allaient dans les grandes salles de bière. Ils se saoulaient la gueule, ils se défonçaient. Et ça, notre Benjamin Franklin le trouvait inacceptable, inacceptable culturellement. Et alors, il a réfléchi sur ces nouveaux émigrants allemands. Et voilà ce qu'il nous dit. « Je vous jure que je n'invente pas ce que je vais vous lire. » C'est une vérité absolue, un texte de Benjamin Franklin. Sur la planète, le nombre d'individus vraiment blancs est proportionnellement minime. L'Afrique est entièrement noire ou bien foncée, l'Amérique également, excepté les nouveaux arrivants. En Europe, les Espagnols, les Italiens, les Français, les Russes et les Suédois ont ce que nous appellerons une peau basanée. Les Allemands ont, eux aussi, la peau foncée, mis à part des Saxons qui, avec les Anglais, représentent la plus grande partie de la population blanche dans le monde. J'aimerais qu'ils soient de plus en plus nombreux. Mesdames, Messieurs, l'Europe, c'est pour moi une vision, un rêve. Je pourrais même dire une des dernières utopies pour laquelle il vaut la peine de se battre. Je suis convaincu que la notion de patriotisme constitutionnel, pour reprendre une expression de Jürgen Habermas en parlant de l'Allemagne, est pleine de signification dans le cas de l'Europe. Ce qui unirait les Européens et forgerait leur sentiment d'identité et d'appartenance à l'Europe résiderait dès lors dans une adhésion commune, consciente et réfléchie aux principes et aux normes consacrés par leur constitution. En proposant une constitution européenne, et à condition qu'elle soit digne de ce nom, nous offrons donc aux peuples européens la possibilité de s'élever à une authentique culture démocratique commune. Je suis par conséquent convaincu que les débats autour de cette constitution, de même que le scrutin auquel elle donnera lieu, représentent la condition indispensable à l'élaboration d'une nouvelle Europe. Les discussions auxquelles chacun est invité à prendre part ne peuvent que susciter une prise de conscience générale et déboucher sur une identification politique. C'est en cela que je suis un patriote européen, un patriote constitutionnel. Merci.
Je voudrais poser la question, une question relevant de la Constitution européenne que vous avez évoquée comme clé de la construction des mécanismes de fonctionnement de la future Europe. Cette Constitution, si j'ai bien compris, doit préciser les valeurs morales en particulier sur lesquelles seront jugés les États aptes à faire partie de l'Union européenne. Est-ce que cette même constitution doit également prévoir la conduite à tenir dans le cas où, au sein d'un État membre de l'Union européenne, arrive au pouvoir un parti extrémiste, sachant que dans ce cas-là, vraisemblablement, un certain nombre des valeurs de la constitution ne seront plus respectées, mais que ce pays aura l'euro comme monnaie, fera peut-être partie d'un espace judiciaire commun européen, et fera peut-être partie aussi d'une défense européenne. Comment peut-on, à ce moment-là, trouver des mécanismes concernant ce cas ?
D'accord.
vous posez. Simplement, déjà à Nice, les Européens, après ce que nous avons vécu avec l'Autriche, vont adopter une réforme du traité qui donnera la possibilité à l'Union européenne d'établir un observatoire quand les Européens auront l'impression que les valeurs communes sont en danger, un observatoire sur ce pays, avec effectivement la possibilité après d'adopter un catalogue de possibles sanctions qui pourraient aller jusqu'à l'exclusion d'un pays de l'Union européenne. Je dis, c'était absolument fondamental parce que nous allons être confrontés avec des problèmes, avec l'élargissement très important et très difficile. Si on voit les problèmes, par exemple, des Gitans en Hongrie, il y a des tas de problèmes où effectivement cette notion de valeur commune et d'égalité, ces notions, il faut se l'approprier. Et que les pays qui veulent entrer dans l'Europe sont dans un processus d'appropriation et que même nous, nous sommes toujours jamais à la merci d'un danger, d'un retour en arrière. Donc il faut que cette constitution européenne, cette valeur, débouche aussi sur des possibilités de remettre en question l'adhésion d'un pays.
Est-ce que le problème, est-ce que c'est, je dis que c'est bien de rêver, mais bon, le rêve n'est pas très loin du cauchemar non plus, dans la mesure où... aller de l'avant, c'est pas mal. Est-ce qu'un texte suffit vraiment à fédérer des peuples ensemble, enfin à les faire sentir, se sentir appartenir à une même entité? J'en suis pas sûr. Je prends simplement deux points. Peut-être d'abord, est-ce qu'il y a des relais de l'action, de la Commission, n'en parlons même pas, mais par exemple du Parlement? Pas tellement. Est-ce que, par exemple, moi, j'aimerais bien voir comment ça se passe, une séance au Parlement européen.
Ben, je vous invite.
Où est-ce que je peux
vous
inviter? Merci voilà. Beaucoup. Mais bon, les autres citoyens, peut-être aussi. Je ne suis pas le seul. C'est ça, le problème. Donc, est-ce qu'il y a des relais?
Vous savez comment fonctionne l'Assemblée nationale?
Oui, mais enfin, on a quand même... On peut regarder sur la 3, le mercredi.
Regarder, c'est amusant. Vous voulez un reportage en direct de l'Union européenne? D'accord, ça, on
mais
peut
pourquoi
le faire.
Pas mais de manière rituelle. Enfin, il faut que ce soit périodique, etc. Voilà. Et deuxième chose, c'est les modalités de recrutement des fonctionnaires européens. Parce que moi, bon, j'ai déjà assisté à des, je dirais, à des boulets rouges contre, justement, cette bureaucratie. Alors, et peut-être c'est une vision... Quand je parlais de cauchemar, peut-être que c'est ça, justement. On a un rêve européen. Mais il y a également un cauchemar européen. Alors, il n'est pas, effectivement, ce n'est pas forcément les mêmes personnes qui rêvent ou qui cauchemarent. Mais ce que je veux dire, nous, en France, on voit par exemple le cauchemar européen. Pour nous, c'est cette bureaucratie bruxelloise dont on ne connaît rien, dont on ne connaît même pas comment ça fonctionne, quelles sont les règles du recrutement, etc. C'est-à-dire un petit peu d'ouverture et de transparence, ça me semblerait également être de nature à faire avancer les choses. Voilà, non seulement pour le Parlement, mais la Commission.
Je vais vous donner deux exemples. Alors, d'abord, sur la retransmission, moi, je suis absolument pour, mais enfin, il ne faut pas exagérer. Hein. La 3 retransmet que depuis 2-3 ans, et avant, il y avait une démocratie en France sans retransmission. Hein. C'est comme sur la France, la grande patrie des droits de l'homme, la Révolution française. La démocratie française, entre guillemets, a fonctionné jusqu'en 1944 sans droit de vote des femmes. Le Grand Front populaire n'a pas eu la force de donner le droit de vote aux femmes parce qu'on disait les femmes votent à droite. Ah non, mais c'est vrai, c'était la majorité aurait pu effectivement changer, on n'a pas donné le droit de vote aux femmes. Ce n'est qu'en 1944, dans d'autres pays comme en Allemagne, ça a été plus tôt. Mais je veux dire par là que les conceptions de la démocratie ont changé. Vous avez raison que nous n'avons pas encore la capacité de définir l'espace public européen de donner la possibilité de contrôle par les médias, et que c'est une idée intéressante de retransmettre, disons, sur Euronews, etc., ou des débats du Parlement européen, ou par exemple des débats de commission du Parlement, etc. Ça, c'est la première chose. Alors, sur le cauchemar et la bureaucratie, je crois qu'il n'y a pas un Français qui soit furieux contre sa bureaucratie municipale, sa bureaucratie régionale ou sa bureaucratie nationale. Et Marie-Christine Blandin, qui était présidente donc de la région Nord, m'a raconté une fois qu'elle avait donc, en tant que présidente de la région Nord, négocié avec la Commission une ligne de chemin de fer allant de Valenciennes en Belgique, une nouvelle ligne de chemin de fer. Tout avait été ficelé, réglé, et un an après, ou 2 ans après, un accord a été signé entre la France, Donc le gouvernement français avec l'Union européenne pour une autoroute. Donc la bureaucratie, elle n'était pas européenne, parce que les Européens étaient tout à fait d'accord de faire un truc, mais c'était parce que c'était l'organisation française que tout passe par Paris, des relations entre des régions et l'Europe, qui a changé complètement les choses. Donc par exemple, je demande, dans quelle ville la France a-t-elle organisé des maisons de l'Europe, où les citoyens, où les régions peuvent justement savoir ce qu'ils peuvent attendre de l'Europe. La bureaucratie, pour moi, c'est pas... L'Europe a aussi une bureaucratie, je veux bien la critiquer. Comme toute organisation politique, elle a une bureaucratie. Mais le problème, dans un pays comme la France, c'est que les forces politiques, le gouvernement veut garder son pouvoir de négociation pour la France sur l'Europe et ne veut pas le décentraliser, la décentraliser. Donc pour moi, le grand problème, c'est la bureaucratie française. La nation et cette idée de la nation française.
Monsieur.
Bonsoir. J'avais une question qui touche plus... Enfin, j'ai deux questions. La première touche plus la gestion institutionnelle de l'Europe. C'est-à-dire, moi, j'ai pensé, j'ai rêvé, d'une certaine manière, enfin, si on peut dire ça, à ce que l'exécutif européen soit finalement élu comme... En fait, qu'on élise une équipe gouvernementale, une équipe gouvernementale constituée de plusieurs personnes européennes, au suffrage universel direct. Et donc, est-ce que cette élection d'une équipe gouvernementale est possible? Et ma deuxième question touche plus une valeur politique, concerne directement l'Europe, c'est la paix. C'est-à-dire que dans le texte qui a été soumis à discussion sur le site internet pour la discussion sur la Constitution européenne, il n'y a pas, et j'ai regardé plusieurs fois, il n'y a pas le droit à la paix. Et donc, ma question, c'est, en fait... on voit que l'Europe s'est construite sur cette idée que la paix est fondamentalement nécessaire et doit se diffuser. Alors l'Europe, aujourd'hui, a trouvé la solution que la paix doit se diffuser par le commerce. Bon, c'est une solution comme une autre, mais c'est une solution. Ma question, c'est comment ce droit à la paix, qui est finalement un rêve qui doit se concrétiser, comment ce droit peut-il être institué, approprié par les gens et ritualisé ?
Deux choses. Sur l'équipe, je veux dire, le problème, c'est pour ça que j'ai d'abord pensé à légitimer la commission par l'élection du président. Le problème est que le président essaiera de choisir une équipe qui soit non pas uniquement de son camp politique. Je crois que l'Europe a besoin d'une gestion beaucoup plus collégiale et que qui dit équipe définit simplement un camp. Donc, je crois et je maintiens que le président symbolise une idée d'une orientation politique et qu'on élit un président et qu'on se prononce sur cette idée. Et autour de cette idée, on élit un Parlement européen, c'est une équipe de parlementaires et c'est la majorité du Parlement européen qui devra accepter ou refuser la proposition de gouvernement telle que le président élu l'aura proposée avec des mécanismes qu'on peut imaginer. Alors, deuxièmement, maintenant, sur la paix. Une charte et une charte des droits des citoyens ne peut définir que des choses réalisables. Le droit à la paix, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Europe, et ça, l'Europe peut le définir, l'Europe le définit, par exemple, sur la nécessité du respect de l'individu. Mais, et c'est là que c'est compliqué puisque j'ai parlé de la responsabilité éthique, je suis, moi, persuadé qu'il y a des situations où il faut intervenir, malheureusement même militairement, pour justement défendre des individus, pour défendre des êtres humains. Alors on me dit toujours, mais enfin, c'est pas par la guerre qu'on va changer quoi que ce soit. Moi, j'ai toujours une réponse très simple à ça. Peut-être. Mais moi, je suis né en 1945, le 4 avril. En juin 1945, les Alliés ont débarqué en Normandie. Mes parents ont choisi la première situation possible et biologiquement possible pour faire un enfant après la libération, c'est-à-dire après le débarquement des Alliés. Donc au moins, un débarquement militaire a changé pour moi la face du monde. Sans débarquement, je ne serais pas né. Donc j'ai une vision égoïste de la chose, si vous voulez. Mais je suis profondément persuadé autour de cela que, par exemple, notre intervention était nécessaire en Bosnie et qu'elle était nécessaire au Kosovo. Donc moi, c'est quand ce que j'ai défini, c'est ce que j'appelle le devoir d'éthique, c'est-à-dire de soutenir les individus et que dans ce devoir éthique, dans la formulation de la politique européenne, je suis par exemple pour une politique de prévention des conflits, c'est-à-dire d'intervenir en amont pour éviter qu'on arrive à la guerre. Mais je ne peux pas définir ça dans une charte de droit, mais c'est une orientation politique qu'effectivement il faut définir dans les traités.
Madame,
vous proposez une constitution.
Pardon.
Vous proposez une constitution assez radicale, mais est-ce que vous croyez vraiment que c'est possible de la mettre en place quand on sait le renouveau de le renforcement de l'intergouvernemental et notamment avec la création du Conseil européen et les coopérations renforcées?
Vous mettez le doigt sur le problème et c'est effectivement contre cette intergouvernementabilité que j'essaye d'argumenter. Vous savez, je crois que l'intergouvernemental, en ce moment, est mis à mal. Parce qu'on voit comme la difficulté de fonctionnement. Et déjà, c'est tellement compliqué qu'ils doivent aujourd'hui essayer de trouver comment définir des majorités, c'est-à-dire arrêter de se définir à l'unanimité. Dans la formulation de la charte qui nous est proposée, c'était un pas en avant. On a quitté l'intergouvernemental, on a créé une structure qui s'appelle la Convention, où les gouvernements étaient représentés, les parlementaires européens, les parlementaires nationaux. C'est un plus, avec une transparence. Ce n'est pas encore cela, puisqu'on arrive toujours à la fin à l'intergouvernemental. Et surtout que nous savons que, par exemple, si on mettait plus de droits sociaux dans cette charte, les Anglais auraient dit non. Et comme on est résolu toujours sur l'unanimité, on n'y arrive pas. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous avons tous conscience que justement, l'intergouvernemental ne pourra plus fonctionner et c'est en mobilisant les citoyens, en mobilisant les politiques que j'espère qu'on arrive à cette constitution. Mais c'est quand même, par exemple, le Parlement européen a voté maintenant, il y a quelques semaines, un rapport justement nous appelant à constitutionnaliser les traités. Et dedans, il y a « nous avons besoin d'une constitution ». Impensable il y a 3-4 ans. Moi, je suis persuadé, je peux vous dire que cela, que dans ce combat politique, nous aurons, avec l'élargissement, nous aurons la première ébauche d'une constitution européenne. Ça ne peut pas fonctionner autrement. Et dans cette constitution européenne, il y aura la charte et il y aura la définition du rôle et du fonctionnement des institutions. Je crois que nous y arrivons et vous me dites est-ce que j'y arriverai? Moi, je suis persuadé et d'ailleurs, j'ai tenu un discours il y a une semaine à Groningen en Hollande. Les gens sont fascinés. Si on leur propose quelque chose, ils disent « let's do it, on y va, on en a marre de toujours de dire oui, les gouvernements, etc. » Mais il faut d'abord avoir disons un peu l'insolence de dire « voilà ce qu'il faut faire, allons-y, voilà, je sais comment ça marche ». La plupart des gens disent « il faut réfléchir ». Non, on a réfléchi, ça fait des années qu'on réfléchit, on commence à savoir comment ça marche et maintenant il faut le faire. Et il faut pousser les politiques à le faire.
Madame.
Oui, je voulais poser une question sur l'immigration.
Oui.
Bon, on a toujours vu que le problème de l'immigration crée une opposition à ces populations chez les gens qui ne sont pas instruits, il faut bien le dire, qui constituent la masse populaire. Et c'est comme ça que naissent un petit peu les mouvements extrémistes que sont les fascismes, ou prenons Le Pen en France par exemple. Et alors je me dis, moi j'ai découvert en venant aux conférences de l'UTLS l'importance pour les nations d'avoir une immigration pour le développement économique et pour aussi la pérennité des États par le biais de la démographie. Alors je me dis, il faudrait tout de même que nos hommes politiques adoptent un nouveau langage en ce qui concerne justement ces populations immigrées, puisque nous en avons besoin. Et peut-être ils arrêteraient ainsi de désigner à la vindicte les immigrés. Parce que moi, on m'a dit, il n'y a pas très longtemps encore, oui, ils nous prennent nos emplois, ils mangent notre pain, et ça crée des
haines. Ils prennent nos femmes.
Pardon?
Ils prennent nos femmes.
Bon, ça, je n'ai pas entendu, excusez-moi. Ah bah, peut-être que ça se dit entre hommes.
Et moi.
Peut-être entre hommes, mais pas, je ne l'ai jamais entendu. Bon, alors, je ne peux pas le dire. Bon, alors, voilà. Et puis, une dernière chose que je veux vous dire, alors ça, c'est un petit peu à titre personnel. Je vous ai suivi le 13 mai 68 au Champ de Mars et j'étais pieds nus.
Aussi. Non, ici.
Écoutez, sur l'immigration... Nous sommes certains groupes politiques, dont les Verts, à se battre pour l'introduction de donner le droit de vote à tout le monde. Pourquoi ? Parce que si dans toutes les municipalités, tout le monde, tous les immigrés avaient le droit de voter, vous verrez que les hommes politiques parleraient autrement aux immigrés. Hein ? C'est-à-dire que si les immigrés pouvaient participer au débat, quelles écoles comment, quels espaces culturels et comment, ils seraient des partenaires. La reconnaissance, et pour moi la base de notre démocratie, c'est la citoyenneté. La citoyenneté, c'est pas seulement de dire, on le dit toujours aux immigrés, mais vous avez des devoirs. Oui, ils ont des devoirs, mais ces devoirs, ils ne les accepteront que s'ils ont des droits. S'ils, moi, si vous voulez, la démocratie multiculturelle dont je rêve, est la chose suivante. Les gens, les immigrés, ont un droit de vote. Et puis, il y a un débat en France, par exemple, sur l'avortement. Mais il est évident qu'un débat sur l'avortement, vous avez deux forces multiculturelles en face, l'une en face de l'autre. Vous avez d'un côté l'intégrisme catholique, protestant, juif et musulman, contre le droit des femmes de décider, et d'un autre côté, les illuminés de tout genre qui défendent le droit des femmes de décider. Donc, c'est une première chose. Deuxièmement, sur le langage. Moi, je suis pour un véritable langage ouvert. L'immigration, je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose de fantastique. Ça ouvre, ça donne des possibilités à un pays et c'est difficile. Par exemple, aujourd'hui, nous devons intégrer en Europe, la troisième religion en Europe, c'est la religion islamique. Moi, je dis ça, je suis athée. J'en ai rien à cirer, vraiment rien à cirer des religions, quelles qu'elles soient. Mais à partir du moment... où nous postulons le droit à chacun d'exercer sa religion, il faut donner les mêmes droits à toutes les religions. Mais il faut savoir, c'est comme ça que je parlais des différences des expériences historiques, la religion catholique, la religion protestante dans certaines régions et la religion juive ont, depuis une centaine d'années, subi un processus de sécularisation qui a été meurtrier. La guerre de 30 ans, la religion catholique n'est pas née séculaire. Elle n'est pas née en disant, mais de toute façon, depuis 2000 ans, nous catholiques, nous défendons la séparation du politique et du religieux. Ce n'est pas tout à fait ça l'histoire telle que nous la connaissons. Et le problème que nous avons, c'est que nous avons aujourd'hui une religion avec certaines formes politiques. C'est la religion, les religions musulmanes qui sont dans un processus de sécularisation. Et nous avons donc dans nos pays des différences d'expérience historique qui rendent les choses difficiles, mais il faut savoir que c'est un processus historique nécessaire et que c'est pas simplement dire « ils doivent ceci, ils doivent cela ». Ce n'est qu'en soutenant ceux qui, à l'intérieur du monde musulman, se battent justement pour une émancipation et pour une sécularisation, en soutenant ces forces, que nous arriverons à une religion musulmane séculaire.
On va prendre encore quatre questions. Donc, monsieur.
Oui, allez-y. Vous avez parlé au tout début de votre conférence de l'identité de l'Europe. Et vous avez dit ce qui fait l'identité de l'Europe, ce sont ses valeurs avant tout. C'est-à-dire l'antitotalitarisme, le respect de l'individu et de sa valeur, la séparation des pouvoirs, etc. Le conférencier d'hier nous a dit strictement à la fin de sa conférence, mais ça ne change rien, à peu près les mêmes choses. D'un autre côté, plus c'est loin, vous avez dit entrer dans l'Europe, c'est accepter tout ou n'accepter rien. Et vous avez donné l'exemple éventuel du Danemark avec l'euro. Est-ce que cette rigidité, cette non-diplomatie d'une entrée dans l'Europe, cette nuance qu'il faut accepter tout ou rien, est-ce que ça reste valable alors qu'un point n'a pas été du tout traité, ni d'ailleurs hier, ni aujourd'hui, c'est de savoir quelle est la force de cette Europe.
Autrement dit, une Europe, quelle qu'elle soit, elle n'est valable que si elle est suffisamment forte. Et naturellement, je vise les États-Unis, qui sont la grande force mondiale actuelle. Est-ce qu'une Europe unie serait suffisamment forte par rapport aux États-Unis, surtout si elle n'utilise pas une certaine démocratie, une certaine diplomatie, comme l'entrée, par exemple, du Danemark, même s'il ne souscrit pas à l'euro?
Écoutez, moi, ce qui m'étonne, j'ai parlé des États-Unis. On peut faire la démonstration contraire. Qu'est-ce qu'est la France face aux États-Unis? Qu'est-ce qu'est le Luxembourg face aux États-Unis? Qu'est-ce qu'est le Danemark face aux Luxembourg? Qu'est-ce qu'est la Hollande face aux... Rien! L'Allemagne, rien! Donc, de toute façon, qu'on soit clair, où les États-Unis dominent avec leur modèle culturel... Moi, je suis, par exemple, prenant le problème des grands débats culturels. Je ne suis pas contre le cinéma américain. Le cinéma américain fait des films extraordinaires et les films les plus débiles qui existent. Le cinéma européen fait des films extraordinaires et le cinéma est le plus débile qui existe. Donc, c'est pas là-dessus qu'on se bat. S'il n'y a qu'un modèle culturel, le cinéma, c'est quoi? Ce sont nos rêves. Ce sont nos rêves aujourd'hui que nous traduisons en images. S'il n'y a qu'une société qui définit les rêves pour tout le monde, c'est la base de la démocratie mondiale qui est en danger. Donc, de nous battre, de nous unir, non pas contre les Américains, mais pour que nous ayons notre autonomie, pour que le monde ait plusieurs propositions, nos enfants de rêve, ça me paraît fondamental. Et c'est pour cela que je dis qu'on ne peut pas, et que les Danois, si on leur parle comme ça, en leur disant « mais vous savez que vous êtes rien, que vous avez besoin du soutien de l'Europe face aux Américains. Vous êtes extraordinaire si vous êtes en Europe. Vous avez toutes les possibilités si vous êtes en Europe. Sinon, c'est le modèle américain qui s'impose de plus en plus chez vous. Et dans cette situation, effectivement, ils devront accepter des compromis comme nous acceptons des compromis. Comme l'Europe ne se fera pas à mon image. C'est vrai, j'ai un discours, j'ai un plan, mais je sais que l'Europe qui en sortira, ce ne sera pas la mienne. Il faut d'abord dire quelque chose et que les autres disent quelque chose et on trouvera quelque chose en commun. Et c'est pour ça que je suis d'abord rigide. Parce que pour moi, le vote des Danois contre l'euro, c'est ma peur, moi, que j'ai de l'égoïsme des riches face aux pauvres. C'est la Ligue Lombarde. C'est de dire tout va bien chez nous et on ne veut pas partager. Voilà ma peur que j'ai.
Un peu de répondre un peu aux questions que je vais vous poser, mais ça fait rien quand même. Je vais, il y a quelques points, en particulier, vous ne considérez pas qu'il pourrait avoir une conscience, quelle qu'elle soit d'ailleurs, mais européenne, en cas présent, il faudrait une langue européenne. Alors laquelle, on va choisir des langues nationales. Première question.
Une
seule. Ah bon, d'accord.
Écoutez. Aujourd'hui, avec nos moyens de communication, nous nous comprenons parfaitement. C'est pas là le problème. Le problème, c'est que nous... Moi, si vous voulez, je vais encore simplifier les choses. Moi, je suis pour, par exemple, l'abolition du service militaire national. Hein? Partout. Mais je suis pour un service social d'utilité publique, écologique, ou soit pour tout le monde. Et qu'il se fasse au niveau européen. Hommes et femmes, que chaque jeune ait pendant 6 mois, 8 mois ou 1 an la possibilité et le devoir d'apprendre ce qu'est la solidarité. Ça peut être dans un projet social, écologique, etc. En Europe, quelque part. Et de plus en plus, vous savez, aujourd'hui, si vous parlez musique, les jeunes se comprennent. On parle de cinéma, on se comprend. Donc, je crois que la langue, aujourd'hui, ce n'est plus notre problème. Nous avons tous nos spécificités linguistiques. Et je crois qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus... aujourd'hui, les livres sont traduits, la plupart des gens... Et nous allons de plus en plus dans nos écoles, il faut y arriver. Il faut que chaque jeune personne à 20, 22 ans parle et comprenne 3-4 langues européennes. Avec ça, on se comprend tous. 2-3 langues. C'est fini le temps où on a besoin...
À l'époque antérieure, la langue était l'élément de civilisation de base. Par exemple, à la Renaissance, tout le monde parlait français.
Mais je crois qu'on a déjà délaissé la Renaissance encore. Depuis un certain temps.
Hein? On va prendre encore 2 questions, monsieur et puis monsieur là-haut. Hein?
En fait, j'ai 2 questions.
Une. Oui, la plus importante.
Oui,
Quand il y a deux possibilités, choisissez toujours la troisième. Ouais.
Vous avez parlé de la Charte des droits fondamentaux qui doit servir de socle d'une future constitution. Cette charte a été adoptée au Conseil de Biarritz et doit être ratifiée à Nice, proclamée à Nice. Et elle apparaît, vous l'avez souligné vous-même, qu'elle est insuffisante en matière de droits sociaux et de démocratie participative. Et il faudrait donc la prolonger au-delà de Nice, prolonger le processus d'élaboration de cette charte au-delà de Nice. Est-ce que vous avez un calendrier pour cela? Et ma deuxième petite question, c'est le philosophe Cornelius Castoriadis qui a écrit l'institution imaginaire de la société. Vous avez parlé de mythe tout à l'heure, qu'il fallait combattre le mythe. Mais il semble qu'en France... il y a un déficit de cet imaginaire en matière d'Europe. Est-ce que vous auriez une proposition précise pour développer cet imaginaire?
Alors, deux choses. Sur la charte, ma position est très simple. Je crois que la charte est ce qu'elle pouvait être, vu les contradictions. C'est pour ça que dans chaque constitution, il y a un article qui définit comment cette constitution peut être amendée. C'est fondamental. En France, c'est par le Congrès ou par un référendum. En Allemagne, il faut une majorité des deux tiers du Parlement. Aux États-Unis, une autre forme, etc. Très compliqué. Par exemple, si vous voulez changer maintenant le système des collèges électoraux, il faut que le Congrès vote la réforme de la constitution et qu'après, chaque parlement de chaque État l'adopte à une majorité des deux tiers. Il faut y aller, hein, il faut le faire. Hein. Bon, mais il y a des méthodes. Donc, moi, ce que je veux, c'est qu'après la proclamation, puisqu'on aura la proclamation de cette charte, et que nous aurons, je crois, dans les 3-4 années à venir, une constitution qui devra contenir un paragraphe de réforme de cette constitution, et bien c'est dans les modalités, et qu'on intégrera la charte dans cette constitution, c'est selon les modalités de réforme de la Constitution, qu'on pourra changer la charte. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en ce moment, toute réforme de la charte passe par l'unanimité. Une modalité de réforme de la Constitution européenne passera par une majorité des deux tiers. Ça sera difficile, mais toujours mieux que l'unanimité. Donc, je crois que dans cette période-là, effectivement, il faudra faire rentrer dans la tête des hommes politiques qu'aujourd'hui, la définition des droits fondamentaux passe par une ambition beaucoup plus grande des droits sociaux. Ce n'est pas encore rentré dans la tête des politiques, ça dépend des mouvements sociaux, ça dépend des mouvements politiques pour en arriver là. Et alors sur l'imaginaire, moi je crois que j'arrête pas de produire de l'imaginaire. Ce que disait Castor, qu'on appelait Cornelius Castoriadis, on l'appelait Castor, moi je crois que Castor était un mythique des mouvements sociaux. Il disait « la société se fait par le mouvement social ». C'est vrai une certaine partie. Aujourd'hui, moi, je dis qu'il y a, une évolution, un partage intéressant entre des mouvements sociaux qui anticipent, qui produisent une volonté de transformation et des forces et des institutions politiques capables de mettre sur pied ces réformes. Et c'est en cela que je vois un peu le rôle de politique comme moi, c'est d'être à la charnière entre l'imagination politique et sa concrétisation.
Dernière question, monsieur.
Tout d'abord, je vous signale que l'État qui a gagné le plus de médailles olympiques, c'est l'Europe.
D'une part. Le problème, c'est de savoir dopé ou pas.
Non dopé.
Ça, vous ne savez pas. Ça, vous ne savez pas.
S'il vous plaît, écoutez, arrêtez, vous vous cassez les pieds.
En 2002, il va y avoir des élections présidentielles en France. Alors j'aimerais savoir si un candidat se présente pour être président, pour défendre la nouvelle constitution européenne et faire des propositions concrètes, est-ce que vous soutiendrez cette personne ?
Écoutez,
Moi, pour l'instant, je ne crois pas, je ne vois pas pour les présidentielles françaises l'importance de mon soutien. Moi, j'ai deux possibilités. Si les Verts ont une bonne candidate ou un bon candidat, je les soutiendrai. Sinon, pendant la campagne présidentielle en France, j'irai voir ailleurs. Oui, non, mais je sais. Oui, mais je sais. François Bayrou aura ça dans son programme. C'est ça que vous voulez me demander? J'en suis sûr. Mais la conception de la société que j'ai de François Bayrou sont différents. Nous sommes d'accord sur l'Europe, mais nous ne sommes pas d'accord sur beaucoup de choses dans la société. Donc, il n'est pas... Je suis capable de travailler avec des tas de gens sur des projets précis. On me le reproche d'ailleurs. Par exemple, d'avoir signé un texte en commun avec François Bayrou, mais ça ne veut pas dire que je soutiendrai au présidentiel. Ce n'est pas ma tasse de thé. J'en ai rien à cirer, moi, si François Bayrou devient président de la France. Ou je dis simplement, c'est mon camp politique qui m'intéresse, et si ça m'intéresse, c'est s'ils ont un choix intéressant, avec un programme intéressant, je soutiens, et sinon, je ne soutiens pas, parce que moi, je ne suis pas « right or wrong my party ». Ce n'est pas ça mon truc. C'est, ça marche, ça ne marche pas, je fais autre chose.
Merci.
Pendant cette période.
Merci Daniel Cohn-Bendit.